vous allez suivre est une rediffusion.
RFI, grand reportage.
Des bateaux étrangers stationnent encore dans nos eaux territoriales. Des centaines et des centaines de mercenaires européens de nombreuses nationalités sont dans la ville. Mais la bataille continue.
Le 22 novembre 1970, il y a 50 ans tout juste, le destin de la Guinée fut sur le point de basculer. L'Empire portugais, sur le déclin, est alors mis en difficulté sur son territoire de l'actuelle Guinée-Bissau. Lisbonne va tenter le tout pour le tout en organisant pour la première fois de son histoire et dans le plus grand secret, une attaque éclair hors de ses frontières. Objectif, renverser le régime de Sékou Touré, principal soutien des rebelles indépendantistes. Le coup de force échoue partiellement, mais va donner le coup d'envoi de la plus grande vague de répression de l'histoire de la Guinée. Retour sur cet épisode peu connu de l'histoire coloniale. Opération Mar Verde, les eaux troubles de la mémoire, un grand reportage de Carole Valade.
La mer est calme, l'allure constante, à l'horizon, les lumières de Conakry. Le Cabo Fuzileiro, Antonio Augusto da Silva Touré, répond avec une contenance impeccable aux salutations des pêcheurs guinéens. Le plan fonctionne à merveille. Nous sommes en 1970, au plus fort de la guerre de libération. Lisbonne est acculée sous la pression internationale, des dizaines de fronts dans trois pays, des milliers de morts. À Bissau, la rébellion indépendantiste du PAIGC est soutenue par le Bloc de l'Est, Cuba et la Guinée de Sékou Touré. Alexandre Carvalho-Neto est alors secrétaire du gouverneur.
Lorsque je suis arrivé à Bissau, il y avait des attaques, je ne dirais pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Nous devions renverser le rapport de force.
Dans le camp d'en face, Francesca Pereira du PAIGC.
Le front sud a été le théâtre des plus violentes batailles et des bombardements les plus intenses. Nous avons subi des assauts terribles qui visaient à fermer notre frontière avec la Guinée-Conakry, car c'est de là-bas que nous recevions les armes.
Des officiers portugais vont alors tenter le tout pour le tout, renverser le régime de Sékou Touré afin de couper le PAIGC de sa base arrière. Second objectif, libérer les prisonniers portugais détenus à Conakry. L'opération porte le nom de code Mar Verde. Tête pensante de l'opération, le commandant Calvao se procure des mines ventouses en Afrique du Sud, des uniformes soviétiques pour plus de discrétion, une cargaison d'armes qui transite par Lisbonne. Il ne lui manque plus que des hommes.
Nous savions qu'il y avait un groupe d'exilés guinéens nommé Front de Libération Nationale de Guinée et qui était en contact avec le gouvernement portugais. Ils réclamaient notre soutien pour une action militaire contre Sékou Touré. C'est à ce moment que nous avons décidé que notre opération serait aussi une tentative de coup d'État.
Soldats prennent part à l'opération. 200 membres du FLNG, 150 commandos africains et 80 fuzileiros de l'armée coloniale. Lisbonne donne le feu vert, à condition que rien ne permette d'identifier les auteurs. Les bateaux sont donc repeints de fond en comble jusqu'aux bouées de sauvetage. Les Portugais se teignent le visage en noir. Les plaques de groupe sanguin, les revues, les boîtes d'allumettes jetées à la mer. La nuit enveloppe maintenant l'archipel. Cap sur Conakry, où les habitants ne se doutent encore de rien. Il est minuit, la lune est pleine et aucun vent n'agite les haubans. Conakry a vu, dit le télégramme.
Naviguer avec l'artillerie prête au combat. Vérifier que le personnel ne porte aucun indice compromettant pour le pays.
Joséphine Dianey, alors stagiaire dans les services de sécurité.
On les attendait effectivement le 19 novembre. Ils ne sont pas venus le 19, ils ne sont pas venus le 20, ils ne sont pas venus le 21. Ils sont arrivés le 22, c'était un samedi. Conakry était une ville très vivante en cette période. On avait des dancing partout avec les orchestres. Partout. Donc, le dispositif a été relâché.
Boule de feu s'élève dans le ciel. L'offensive est lancée. La flotte du PAIGC est détruite et l'électricité coupée. Calvao compte sur l'effet de surprise pour déstabiliser l'ennemi. Les canots pneumatiques glissent vers la terre et prennent d'assaut le camp Boireau sous les yeux d'Ismaël Condé.
L'éclatement des grenades offensives, le crépitement des armes, et puis des cris que l'on entendait. C'était « Ah, ça doit être sérieux ». Quelqu'un, lui, je ne sais pas s'il avait des jumelles, lui a dit « Ah, mais il y a des bateaux, hein, il y a des bateaux qui font des allers-retours. » Les mercenaires qui avaient occupé le camp ont fait sortir toutes les familles. Il y avait le chef, alors on voit un mercenaire trapu sauter au cou de ce monsieur, le plier entre ses jambes et sortir un poignard, lui planter ça dans les reins, verticalement, perpendiculairement, au moins deux fois après. Il écarte les jambes et le grand gars s'affale. C'était horrible. Des gens qui gisaient dans le sang, d'autres qui... Bon, donc...
Depuis sa cellule, Antonio Lobato, le plus ancien prisonnier de guerre portugais, est tiré de son sommeil par une série de détonations.
C'était irréel. J'ai été réveillé au milieu de la nuit par des coups de feu qui se rapprochaient rapidement. Et puis un tir de bazooka a fait exploser une fenêtre dans la salle où je me trouvais. À entendre tout ça, j'avais la certitude absolue que ces hommes étaient des nôtres.
Une autre équipe s'élance vers la Villa Silly, la résidence du président de la République, Joséphine Dianey.
Pensant que le président était à Bellevue parce qu'ils avaient des informations précises, on nous réveille par les bombardements aux environs de 2h du matin. Et on apprend que les Bellevues ont été bombardées. Moi-même, j'ai pensé qu'il est mort à Bellevue parce que je l'ai accompagné avec d'autres jusqu'au portail de Bellevue.
Aucune trace non plus d'Amilcar Cabral, le leader du PAIGC. Dès lors, les déconvenues s'enchaînent pour les assaillants. Certaines ruelles de Kaloum, le centre-ville de Conakry, ont aujourd'hui encore des aspects de petits villages. Alpha Omar Ba est inspecteur des finances, Moussa Souma, professeur de mathématiques à la retraite. Ils devisent autour d'un verre de thé, à l'ombre d'un manguier, lui aussi témoin des événements de novembre 70.
La vie était paisible. Notre passion, c'était l'école, aller faire un peu de natation à la plage. Et souvent là-bas, nous avions le plaisir de voir passer le chef de l'État de l'époque, le président Sékou Touré. Et plus d'une fois, il s'est arrêté, il nous a serré la main, on a passé quelques 2-3 minutes ensemble et puis il continue son chemin.
C'était un combattant de la révolution. On nous a enseigné que la Guinée, c'est la révolution. À côté de la marmite, le fusil, à côté du cahier, le fusil, etc., etc. C'était la chose la plus importante en ce moment.
Mais bon, j'imagine qu'à 19 ans, vous aviez aussi des distractions, ouais. des loisirs. Comment était votre vie de jeune homme?
Ça ne manquait pas. Hein. La culture était très développée ici. D'abord, moi, j'étais un footballeur. J'ai même eu la Coupe nationale.
Félicitations.
Merci. Coupe PDG, j'ai eu ça. Bon, il y avait les salles de cinéma. Les samedis, c'était...
Justement, le 22 novembre 1970, c'était un samedi.
Ce jour-là, On était parti au 8 novembre, cinéma 8 novembre. Il y a un film qui a passé, Canon de Navarone, de Kirk Douglas.
C'est quoi comme film ?
C'était un film de guerre sur la Deuxième Guerre mondiale avec les nazis. Il y avait Kirk Douglas, il y avait Anthony King.
C'est un bon film ?
Un bon film. Jusqu'à présent, c'est un bon film.
Give up quietly, gentlemen. Unless you want a great many innocent people killed as well as yourselves.
Everyone is staying exactly where you are. The party's over. Somebody stepped on the cake. Which means that there is a traitor in this room.
Gregory Peck speaking. And I'd like to tell you something about the guns of Navarone.
Après le film maintenant, on est venu à la maison. À peine nous, on avait fini de se changer, on partait pour se laver, on a entendu les crépitements.
Et de très près, les coups de feu qui retentissaient derrière la concession. Donc nous sommes restés chacun est resté dans sa chambre jusqu'au petit matin.
Et après le moment d'accalmie, vers 7h, 8h, vous avez pris le courage de mettre le nez dehors ?
Oui, bien sûr. Nous sommes restés là jusqu'au moment où l'armée guinéenne est arrivée. C'est les chars qui sont arrivés là-bas le premier. On a vu le char qui est venu, qui s'est positionné, il a ajusté. J'ai dit, mais il ne va pas tirer quand même. Il a tiré. Je vous avoue que j'ai même été plus rapide que le son.
Ça devait être effrayant.
Oui, effrayant, mais bien sûr. En pleine capitale, mais c'est effrayant. Ça, c'était pas le cinéma, c'était pas le canon de Navarone. Ça, c'était la réalité même.
Ces renforts inattendus déstabilisent les assaillants qui, arrivés à l'aéroport, ne trouvent aucune trace de l'aviation militaire qu'ils sont pourtant censés détruire. Pire encore, l'un des officiers portugais vient de déserter.
Le lieutenant a pris la fuite avec 20 de mes hommes. Il m'a trahi lamentablement.
Faute de contrôler le ciel, l'attaque aérienne est annulée. Le jour commence à poindre, Calvao sonne la retraite.
Des bateaux étrangers stationnent encore dans nos eaux territoriales. Des centaines et des centaines de mercenaires européens de nombreuses nationalités sont dans la ville. Mais la bataille continue. C'est pourquoi nous faisons appel à tous les patriotes pour que, arme en main, l'ennemi soit écrasé, définitivement écrasé.
La voix d'Ahmed Sékou Touré résonne sur les ondes de la Voix de la Révolution. Les assaillants ont échoué à faire taire la radio nationale. Tandis que le FLNG poursuit le combat sur terre, les prisonniers libérés gagnent les navires qui déjà lèvent l'ancre. À leur bord, Antonio Lobato.
Il y avait une longue file de personnes réunies sur la plage. Les nôtres sont passés tranquillement devant eux et ont regagné les bateaux sans aucun problème. Il était 10h du matin, le soleil était déjà haut dans le ciel. De ce que j'ai pu voir depuis la mer, la population avait l'air parfaitement stupéfaite de voir nos navires et nos soldats.
Mandy Fingiane.
Ces agresseurs ont tué 517 innocents à Conakry, à Kounara et à Gawal. C'est la suite logique, c'est pour ça que j'ai dit immédiatement on allait sur le terrain en armes. C'est le peuple qui était en armes.
Et les jours qui suivent, qu'est-ce qui se passe alors
Non, les jours qui suivent, c'est les arrestations sur la base des dénonciations. Ceux qui ont été pris sur le terrain, c'est-à-dire il n'y avait pas du tout à discuter sur les cas. C'est-à-dire ce qu'on appelle de la flagrance. Mm-hmm. Voilà. Donc, en un mot, il n'y a pas eu de prisonniers de guerre. Ce que Touré l'a dit en France, je les ai tous tués.
Conakry vit dans un climat de peur plusieurs jours durant, bien après que les Portugais ont levé l'ancre. Une peur entretenue à dessein. C'est en tout cas ce que pense Souleymane Diallo, à l'époque jeune reporter au quotidien d'État.
Tout le monde tirait sur tout le monde. Chacun avait presque un fusil. On vous donne le fusil et vous défendez la révolution. Ça consistait à tirer dans toutes les directions. Il y en a qui se cachaient, il y en a qui disaient les mercenaires sont là, alors que c'est faux.
Parce que souvent on entend dire les Guinéens se sont levés comme un seul homme pour chasser l'envahisseur. Ça, c'est
très beau. C'est très beau, mais c'est totalement faux.
indifférence ou résistance. Pour le régime, c'est en tout cas la preuve ultime qu'un complot international existe bel et bien. L'occasion de déclencher l'une des répressions les plus féroces de son histoire, la Grande Purge de 71. Dans les préfectures du pays, les tribunaux populaires révolutionnaires condamnent à tour de bras. Retour maintenant sous le manguier du quartier sans fil.
Qu'est-ce que vous tenez dans les mains là ?
Je tiens le livre blanc, où il y a les différentes dépositions des gens accusés pour l'agression du 22 novembre. À la première page, je vois Sékou Touré, responsable suprême de la révolution. Et puis après, c'est les différentes interventions des détenus.
Mais on voit sinon que la couverture est verte. Donc le livre blanc est vert en fait.
Oui, il est vert. Il est vert.
Comme la mer.
Ce 25 janvier 71, il n'y a pas cours. Les élèves de Conakry doivent se rendre obligatoirement au pont du 8 novembre pour une leçon particulière.
J'ai vu les quatre palmiers.
Qui étaient ces gens ?
Baldi Ousmane, celui qui avait sa signature sur la monnaie guinéenne. Marie III, il était au garage du gouvernement. C'était celui qui était directeur au garage du gouvernement. Karadou Soufiane était le commissaire central. Magasuba Moriba était le ministre de l'éducation. C'est de grandes personnalités. On dit qu'ils font partie de l'agression du 22 novembre. Alors ça, ça nous a bouleversés. Et moi, j'ai commencé à ne plus croire. Parce que pour moi, quelqu'un ne pouvait pas être contre lui et rester là. Tellement que le parti était fort. Tellement que la police était puissante. Même moi, j'étais policier. Je l'ai dit, tout le monde pouvait accuser qui il voulait. Même dans sa propre famille, on pouvait accuser.
Et vous pensez que l'agression du 22 novembre a pu être utilisée pour régler les comptes, se débarrasser des gens ?
Faire disparaître les gens qui constituaient un obstacle pour le président. Enlever les faux pions comme au damier, il a sacrifié beaucoup de cadres pour asseoir sa politique. Et ça, moi, ça ne m'a pas plu. Sincèrement, ça ne m'a pas plu.
Mohamed Barry, ancien habitant du quartier sans fil, devenu défenseur des droits de l'homme.
Mohamed m'a dit, quand il y avait eu l'accalmie, il m'a dit, bon, tu sais que ton papa n'est pas là. Vous allez ramasser les balles perdues là. On va garder ça. Pour à son retour, on va le montrer.
C'est-à-dire les étuis, les douilles.
Les douilles, voilà, les balles perdues, les douilles là.
C'est un peu le travail que vous allez faire plus tard dans votre vie.
Mais quand ils ont pendu ces gens-là, ma mère m'a dit que ton père, il n'est pas content, il est sous le choc. Il m'a dit en poulard, il dit qu'ils ont arrêté beaucoup de ces gens, mais on les a tués. J'ai dit tuer, c'est-à-dire, il a dit, ah c'est fini, ils sont partis, c'est fini, viens plus. Après, mon papa était dans ce choc-là. Maintenant, depuis ça, ça m'a... D'abord, l'injustice-là, j'ai vu mon père pour la première fois pleurer. Donc ça m'a marqué parce que j'ai vu à bas âge l'injustice, l'arbitraire, les violations.
Un demi-siècle plus tard, le Portugal n'a toujours pas reconnu l'opération. En Guinée, presque aucune commémoration. C'est un sujet difficile à évoquer. En remuant les eaux troubles de la mémoire, des fragments d'un passé douloureux remontent à la surface. Mais la mère n'a pas encore livré tous ses secrets.
Opération Marverde, les eaux troubles de la mémoire, un grand reportage de Carole Valade avec la participation de Coralie Pierret et Laurent Corot, réalisation Eva Piedel.